VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, 5 militaires camerounais, dont un officier, tués et 3 autres blessés lors d'une attaque non revendiquée hier soir contre un poste militaire dans l'extrême nord du pays, où l'armée camerounaise se bat contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. L'incursion a eu lieu dans le village de Sagmé, près de Fotokol, ville frontalière du Nigeria. Pas d'informations jusqu'à présent sur l'incident de la part de l'armée camerounaise. Boko Haram lance des attaques non seulement dans le nord du Cameroun, mais aussi au Niger et au Tchad voisin, dans les zones proches du lac Tchad. Élection RDC, la Corée du Sud a officiellement mis en garde ce mardi contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne lors des scrutins du 23 décembre 2018, et ce à cause de possibles conséquences négatives sur les élections censées organiser le départ du pouvoir du président congolais Joseph Kabila. Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables, souligne l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa. Mais la CENI, la Commission électorale nationale congolaise, souligne sa détermination de continuer à utiliser les machines à voter. La CENI est en affaire avec une firme coréenne, pas avec le gouvernement coréen, a déclaré à l'AFP Corneille Nanga, le président de la commission. RDC toujours, l'insécurité dans le territoire de Djougou affecte l'économie de la province d'Ituri dans le nord-est du pays. Au marché de Bounia, le chef-lieu provincial, les prix de certaines denrées alimentaires ont doublé, voire même triplé. Et selon la société civile en Ituri, l'insécurité ainsi que les déplacements de population dus au conflit pourraient créer une situation de famine. Reportage de Charlie Kassereka, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Bounia.
Les légumes, fruits, les poissons et autres produits des champs deviennent de plus en plus rares sur les marchés et leurs prix ont doublé, comme par exemple les poissons et les maniocs, nourriture de base pour les Ituriens. Au grand marché, les vendeuses de poissons du lac Albert, situé à une trentaine de kilomètres de Bounia, déplorent les tracasseries, pillages et kidnapping sur la route depuis un certain temps. L'une d'elles raconte son histoire à VOA Afrique.
Sur la route, il y a maintenant beaucoup de problèmes. Pillages, tueries. Avant, c'était facile d'écouler 150 à 180 kg. Aujourd'hui, difficile de vendre même 100 kg. L'argent ne circule plus.
Pour les ménagères, difficile de remplir leur panier et satisfaire tous les enfants à la maison. Angèle, mère des 4 enfants, est venue acheter du poisson ici au marché.
Je suis venue acheter les poissons, les demi-kilos. Ça coûte 3000 francs. Avant, ça coûtait 1500 francs. Beaucoup de gens de l'intérieur qui nourrissent Bounia sont déplacés suite à l'insécurité.
L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage redoute des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire si la situation perdure. L'Okadi Bonaventure.
On doit avoir perdu plus de 50% de la production. Ce qui fait qu'avec un 5 dollars, une maman ne peut pas satisfaire son panier ménager et tout le monde, ça crée des problèmes.
La société civile appelle à un rétablissement rapide de la sécurité dans la région de Djougou et va jusqu'à demander même la démission du gouverneur d'Ituri. Jean Bosco Lalo est le coordonnateur des activités de la société civile ici en Ituri.
Que le gouverneur actuel soit relevé de ses fonctions parce que finalement, on se retrouvait devant une personne qui n'est pas à mesure de faire avancer la province, qui n'est pas à mesure de sécuriser sa population. Et nous avons demandé dans nos documents des plaidoyers que d'ailleurs Djougou et même Ituri soient déclarés comme une zone sinistrée au vu des drames qu'on a connus.
L'armée congolaise dit mener actuellement des opérations de ratissage sur les terrains pour favoriser les retours des déplacés. Avec une population estimée à plus de 600 000 habitants, la ville de Bounia, chef-lieu de la province d'Ituri, vit des moments difficiles avec un afflux de plus de 50 000 personnes venus de Djougou et qui vivent dans des cas de déplacés et d'autres dans des familles d'accueil. Charlie Kassereka, à Bounia, à Ituri, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'Afrique du Sud rend hommage ce mardi à l'esprit de combat de Winnie Mandela et organise plusieurs événements consacrés à la vie de l'ex-femme de Nelson Mandela, une militante acharnée dans la lutte contre les régimes d'apartheid. Des sympathisants qui avaient commencé à se réunir devant son domicile après l'annonce de son décès lundi continuent à affluer aujourd'hui devant sa modeste maison en briques rouges dans le township de Soweto pour saluer sa mémoire. Morgan Guiriek
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans une brève allocution télévisée, a déclaré « Nous avons perdu une mère, une grand-mère, une amie, une camarade, une meneuse ». L'ANC au pouvoir a fait l'éloge d'une femme qui symbolisait la force, la résistance et une âme éternelle de la liberté. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu a salué un symbole majeur de la lutte anti-apartheid. En 1958, Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela épouse Nelson Mandela. Son mari sera condamné en 1964 à la prison à perpétuité et pendant ses 27 ans de prison, Winnie deviendra l'icône de la lutte contre l'apartheid. Une image ternie par ses frasques, son discours violent et les accusations de meurtre contre ses gardes du corps. À la sortie de prison de Nelson Mandela en 1990, elle marche main dans la main à ses côtés dans une image qui fera le tour du monde. Mais leur divorce est prononcé en 1996. À sa mort en 2013, Nelson Mandela, qui s'était entre-temps remarié avec Graça Machel, ne lui a rien légué. Winnie, amère, a même saisi la justice sans obtenir satisfaction.
L'Afrique du Sud rendra publiquement hommage à Winnie Mandela lors d'obsèques officielles le 14 avril. Élections en Sierra Leone, les résultats du second tour de la présidentielle sont maintenant attendus d'ici à jeudi, soit un retard de plusieurs jours dû à des divergences entre les candidats lundi sur la méthode de dépouillement du scrutin. Le point sur les explications de la NEC, la Commission électorale nationale, à ce sujet avec Jacques Aristide.
La commission a dû interrompre brièvement le dépouillement des bulletins de vote pour régler un désaccord sur la manière, manuelle ou à l'aide d'un logiciel, de compiler les résultats au niveau des centres régionaux. 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, la NEC n'avait donné aucune indication sur le résultat, qui s'annonçait serré selon des analystes interrogés avant le scrutin, qui s'est tenu le 31 mars avec 4 jours de retard sur le calendrier initial. Au premier tour, le candidat de l'opposition, l'ancien militaire Julius Maada Bio, avait remporté 43,3% des suffrages, soit une avance de 15 000 voix sur Samora Camara, candidat du parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages. Hier, les deux finalistes, après des heures de négociation, sont parvenus à un compromis et le dépouillement a pu reprendre. Monsieur Bio et M. Camara se sont donné l'accolade devant les caméras à l'issue de cette réunion de conciliation, alors que leurs deux partis se sont mutuellement accusés de vouloir faire monter la tension. Tous deux ont lancé un appel à la patience et au respect des résultats qui seront proclamés.
Mali, Amnesty International a exhorté aujourd'hui les autorités maliennes à faire la lumière sur des exécutions extrajudiciaires dans le centre du pays, où 6 corps ont été retrouvés dans une fosse commune la semaine dernière. Amnesty indique avoir recueilli des témoignages selon lesquels ces 6 corps découverts dans une fosse commune le 27 mars étaient ceux de personnes arrêtées 3 jours auparavant par l'armée dans le village de Dogo et amenées vers une destination inconnue. Égypte, le président américain Donald Trump a félicité son homologue égyptien pour sa réélection à la magistrature suprême. C'est ce qu'a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Côté américain, le département d'État annonce que les États-Unis ont assuré l'Égypte qu'ils étaient impatients de continuer à travailler avec le président Abdel Fattah al-Sissi pour faire avancer le partenariat stratégique entre Washington et le Caire. Actualité hors d'Afrique pour terminer. En Syrie, les forces gouvernementales se rapprochent d'une victoire totale dans la Ghouta orientale, l'enclave rebelle aux portes de la capitale Damas. Les rebelles évacuent depuis hier la dernière poche antigouvernementale dans ce secteur. Eric Maniratiza.
D'après la télévision d'État syrienne, 12 bus transportant plus de 620 membres du groupe radical islamiste Daesh al-Islam et leurs familles sont sortis de Douma. Le mouvement rebelle n'a pas confirmé l'information sur ce retrait de l'ultime poche rebelle. L'opération, fruit d'un accord avec la Russie, devrait prendre plusieurs jours, estime l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les groupes insurgés ont accepté un à un d'abandonner leur position après 5 semaines de bombardements intenses qui ont fait plus de 1600 morts. Le régime de Damas a dit ces derniers jours que plus de 46 000 personnes, environ un quart de combattants, ont déjà gagné la province d'Idleb dans le nord-ouest du pays. Avec ces évacuations orchestrées par Moscou, le pouvoir syrien contrôle maintenant près de 95% de la Ghouta orientale et le reste ne sera qu'une question de jours. La chute de la Ghouta marquerait une des pires défaites pour les rebelles dans la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 7 ans.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.